France Info.
L'infomédia Céline Baïda. Court, d'abord en bref, la pub sera plus chère désormais pour les matchs des footballeuses françaises sur TF1.
Oui, après le succès inattendu de France-Corée du Sud en ouverture du mondial, 9,8 millions de téléspectateurs, la Une revoit ses tarifs à la hausse. Ce soir, pour la rencontre des Bleus face aux Norvégiennes, les annonceurs devront débourser entre 95 000 et 116 000 euros pour un spot de 30 secondes. C'est une augmentation de 50 à 60%, mais ça reste encore en dessous des prix pratiqués pour le mondial messieurs.
L'animateur télé préféré des Français est
Stéphane Plaza. Pour la première fois, le spécialiste immobilier de M6 se hisse en tête du sondage publié dans TV Magazine. Grâce au vote des femmes et des jeunes, il détrône Michel Simès. Nagui prend la troisième place.
Notre invité à présent, c'est l'auteur et réalisateur d'un documentaire diffusé ce soir sur France 3 qui donne la parole à des centenaires.
Un siècle dans leur tête, le 20e siècle raconté par ceux qui l'ont traversé. Bonjour Jean-Michel Dian.
Bonjour.
Il y a des images d'archives, un texte lu par Jean-Pierre Daroussin et le témoignage de 8 hommes et femmes, tous centenaires. Comment les avez-vous choisis ?
Écoutez, c'est un an de travail en fait en amont, tout simplement parce que je souhaitais trouver des centenaires anonymes, c'est-à-dire des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes, sur un territoire, dans une fonction qu'ils ont occupée, qui pourrait être celle d'institutrice, ce qui est le cas. De coiffeur, de chef d'entreprise, de prêtre, il y a un prêtre dedans. Il y a 8 centenaires, 4 hommes, 4 femmes, qui sont assez représentatifs de la population française. C'est peut-être ça qui fait aussi la différence.
Tous ont vu évidemment leur enfance marquée par la Première Guerre mondiale. Ils en ont encore des souvenirs assez précis.
Alors, ce qui est assez étonnant, et pour le journaliste que je suis, c'est d'observer la mémoire vive de ces centenaires. Mais une mémoire qui s'arrête en gros, allez, vers la chute du mur de Berlin. Après, il y a beaucoup moins de mémoire. Mais la mémoire vive qui commence pendant la Première Guerre mondiale, puisque la plus ancienne dans ce film, elle s'appelle Antoinette. Elle habite dans la Loire, elle a 105 ans, et elle me raconte comment sa mère lui a annoncé la fin de la Première Guerre mondiale, l'armistice. Et c'est les cloches sonnées, on l'entend, elle parle de ça comme si c'était hier. Donc on remonte toute l'histoire, on croise ces témoignages totalement différents, et on fait un récit de ce siècle sans le filtre des historiens.
Ils ont 20 ans quand la Seconde Guerre mondiale éclate. Le 6 juin 40, le général de Gaulle lance son fameux appel à la résistance, qui est ressenti différemment par vos témoins. On écoute.
Moi, j'étais gaulliste à fond, je me serais fait tuer pour de Gaulle.
L'appel de Gaulle, à l'origine, je ne dirais pas qu'il s'est passé complètement inaperçu, mais ça a été peu perçu.
Ça a fait du bien, parce qu'on avait l'impression qu'on était vraiment abandonné.
On était chaos.
Les opérations militaires avaient quand même été très éphémères. Donc ça n'intéressait plus personne. On attendait tout simplement la fin de la guerre. Et on ne la voyait pas venir.
Les politiques français avaient fui. Pétain est resté. Il a offert son personnage, sa réputation, sa gloire.
Alors vous avez rectifié, il n'y a pas d'appel du 6 juin, c'est l'appel du 18 juin, pardon, j'ai mélangé avec la date du débarquement. C'est aussi tout l'intérêt de votre film, Jean-Michel Dian. Chacun a ses opinions et sa vision de l'histoire.
C'est une manière de raconter la France telle qu'elle était. J'allais dire brute de décoffrage. En 40, la France n'était pas résistante. Donc il y a eu un certain nombre de personnages qui existent, qui ont des histoires à raconter et qui les racontent bien. Donc voilà, il faut prendre en compte aussi cette réalité, pas la contourner, la prendre telle qu'elle est.
Alors, il vous parle de l'arrivée du téléphone, de l'électroménager, de la télé, de mai 68, ou encore du féminisme.
Je dois reconnaître qu'actuellement, il y a des féministes qui m'énervent, qui poussent un peu louchant trop loin. Si un homme ne peut plus dire à une femme, tu es jolie, j'aimerais bien prendre un café avec toi, ben, où voit-on ça, voilà. La seule chose qui doit être punie, formellement et très sévèrement, c'est la violence envers les femmes. Ça doit être puni, il n'y a pas de problème. Mais le reste, les femmes et les hommes sont faits pour vivre ensemble et pour s'entendre. Et pour s'aimer en plus.
Ce sont les sujets finalement sociétaux qui font qu'aujourd'hui ils comprennent plus très bien notre époque.
C'est-à-dire que le siècle pour eux est passé tellement vite. Vous vous rendez compte en 100 ans ce qui s'est passé. Donc l'accélération de l'histoire, ils se la prennent aussi en pleine figure. Oui. Donc il faut digérer tout ça. Et puis c'est la première fois dans l'humanité qu'il y a une mémoire au long cours qui peut être transcrite de cette manière. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on peut convoquer la photographie ou l'image en général, le son même, pour raconter une histoire de siècle. Et c'est eux qui, pour la première fois, la racontent.
Mmh. Est-ce qu'il y a une forme de tristesse ou de nostalgie dans ce qu'ils vous ont confié ?
Écoutez, franchement, je ne l'ai pas rencontré, cette nostalgie. Il y a une soif de raconter, de transmettre, une joie intérieure qui se dessine en permanence. Moi, je me suis attaché à ces 8 personnes. Et je dois admettre que, surtout vers la fin du film, quand on les voit, où je les interroge sur la mort, par exemple... Au lieu de sombrer dans la mélancolie, au contraire, c'est une manière de nous regarder, nous, tels que nous sommes, pour essayer de s'inspirer de ce qui, de ce que eux ont à dire sur la mort, l'au-delà. Quand il y a quelqu'un qui, il y en a une, je crois que c'est José, qui raconte que, au fond, elle croit en l'éternité. Donc, à quoi bon s'interroger, plus que nécessaire sur la mort? Voilà. Il y a une philosophie. Du quotidien qui est entretenu, qui est assez commune à l'ensemble des 8. C'est ça qui est le plus étonnant. Ça concerne pas une centenaire ou un centenaire. Les 8 sont traversés par la même idée de regarder l'au-delà de la même manière.
Il y en a 2 qui ne sont plus là d'ailleurs voilà. Aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'ils vivent bien dans leur époque? Par exemple, est-ce qu'ils s'intéressent à l'actualité?
Écoutez, bien sûr. Pas vraiment, parce que quand j'interroge le père Bourgeois à la fin, où je lui demande, au fond, parce qu'il hésite sur le nom de la reine d'Angleterre, sur le chancelier allemand.
Pourtant, elle est là depuis quelques années.
Voilà, c'est cela. Et donc, à un moment donné, je pose la question au père Bourgeois, mais le président de la République française, et là, il hésite un petit peu, et c'est moi qui, en off, dis Macron. Et là, il se met à rigoler, il dit oui, Emmanuel, et ainsi de suite. Voilà, et le film se termine de manière... rigolote, drôle, enfin. Et c'est eux qui donnent une joie à ce film. Et les archives, évidemment, assez inédites, puisque la moitié des archives sont inconnues. On les voit pour la première fois.
Et c'est à découvrir donc ce soir, 23h25, sur France 3, Un siècle dans leur tête. Merci beaucoup, Jean-Michel Gian, ou en replay demain matin, évidemment.
En replay.
En replay demain matin, pour ceux qui ne peuvent pas veiller aussi tard.